mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, offensive israélienne à Rafah. Les dossiers brûlants qui occupent les États-Unis et Israël ne manquent pas ces jours-ci. On en parle d'ailleurs, vous en avez parlé, ma chère Lucie Gilson, avec Jean-Éric Brana. Il est spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université de Panthéon-Assas. Voici son avis sur tous ces dossiers brûlants.
Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférence à Assas. Pour commencer, j'aimerais revenir sur la décision du procureur de la Cour pénale internationale concernant la mise en place de mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas et d'Israël avec les mêmes charges d'accusation. On a vu Anthony Blinken et Joe Biden réagir vivement à cette décision en la dénonçant. Qu'est-ce que cela signale dans les relations entre les États-Unis et Israël?
Bah écoutez, ça nous signale d'abord que rien n'a changé. Le discours de Joe Biden est assez clair. J'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, certains qui disaient, mais il change d'avis comme de chemise, là il y a un vrai problème. En réalité, l'avis est le même depuis le départ. C'est un signal fort de soutien à Israël, à l'État d'Israël, qui n'a pas changé depuis longtemps, mais depuis le 7 octobre en particulier, qui est de dire également que le 7 octobre est une attaque terroriste, de l'appeler comme telle et de ne pas déroger à cette règle, d'affirmer qu'un État a le droit de se défendre contre une attaque terroriste. Et rappelons que les États-Unis sont bien placés sur ce terrain-là, puisque le 11 septembre, c'était également une attaque terroriste et que les Américains ont appelé la vengeance. Et que Joe Biden faisait partie des signataires, d'ailleurs, hein, de ceux qui ont voté au Sénat pour poursuivre Ben Laden et tous ceux qui ont organisé cette attaque, même au prix d'une guerre, puisqu'il fallait en passer par là pour pouvoir changer les choses. Et enfin, la CPI confond les choses, c'est que elle met sur le même plan les dirigeants du Hamas et les dirigeants de l'État d'Israël, et que là-dessus, pour Joe Biden, il y a effectivement quelque chose qui est intolérable, honteux, a rajouté Anthony Blinken. C'est une position, encore une fois, qui est la même depuis le départ. Je le rappelle, le 7 octobre, Biden réagissait immédiatement, puis il prenait l'avion tout aussi immédiatement, à quelques jours près. Il est allé rencontrer Netanyahou à Tel Aviv et il lui a dit, les yeux dans les yeux, je vous soutiens, mais faites attention à la vengeance. Et c'est enfin ce dernier point que je voulais aborder. Là aussi, ça n'a pas changé. Depuis le 12 octobre, le 11 octobre, quand il s'est rendu en Israël, il a dit, faites attention, nous avons, nous, une expérience avec le 11 septembre où on s'est trompé, où la vengeance peut rendre aveugle. Il faut donc retenir votre main dans cette vengeance et puis distinguer qu'il y a des populations civiles qui n'ont rien à voir. La complexité étant pour Israël, pour l'État d'Israël, pour les dirigeants et pour la plupart des habitants d'Israël, qu'ils ne savent pas distinguer entre une population civile pacifique et des gens qui seraient proches du Hamas. C'est bien là toute la difficulté de la situation aujourd'hui sur le plan politique et géopolitique. Mais il n'en reste pas moins pour les Américains, et ça dépasse très largement l'opinion de Biden que vous évoquiez, il n'y a pas de corrélation, d'égalité à mettre entre Hamas et Israël. Ce n'est pas du tout la même chose.
Alors, vous l'avez très rapidement évoqué, la pomme de discorde reste encore et toujours l'opération à Rafah que le gouvernement israélien appelle de ses voeux. Ce matin, des révélations du Washington Post semblent indiquer un assouplissement également de la position de Joe Biden à ce sujet. Est-ce que c'est effectivement le cas? Comment l'expliquer?
Alors, j'ai lu effectivement la même chose que vous. On en parle déjà depuis quelques jours, hein. Tout comme on a pointé du doigt le fait que, après avoir dit je ne livre plus de bombes et d'armement à Israël, si ce n'est pour la défense d'Israël, donc pour le dôme de fer, quelques jours plus tard, Joe Biden donnait l'autorisation d'un nouvel envoi. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué certainement pour le chef d'État américain qui est, je l'ai dit plusieurs fois sur votre antenne comme sur d'autres antennes, mais il est en réalité pris entre deux feux. Il y a du côté le feu de ses convictions qui sont son envie d'avoir un grand succès diplomatique au Proche-Orient, notamment en terminant le travail de rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, et plus globalement que toute la région puisse travailler ensemble et installer la paix le plus durement possible dans cette région. Et puis de l'autre côté, la réalité électorale aux États-Unis qui le pousse dans une autre direction. Et c'est pas forcément la direction qu'il voudrait suivre, même si il accepte la contestation, les manifestations et être contesté là-dessus. Il le dit, il le répète. Très bien, vous avez un avis, exprimez-le. Nous sommes dans une démocratie, mais l'intérêt général des États-Unis, c'est quand même d'être dans la défense d'Israël.
Oui, l'administration Biden est vivement critiquée aujourd'hui pour son soutien sans faille à Israël, comme à travers les manifestations dans les campus américains. Et aujourd'hui, Anthony Blinken est convoqué pour des audiences au Congrès américain pour justifier de la politique du gouvernement américain à Israël. Est-ce que comment ces audiences vont-elles se passer? Est-ce que comment est-ce que le gouvernement américain justifie-t-il ce soutien infaillible, même en étant vivement critiqué de tous bords, on a l'impression.
Alors, il y a deux choses dans votre question. D'abord, il y a la contestation dans la rue et que Biden soit contesté, c'est vrai et faux en même temps, puisqu'il est contesté dans ses manifestations, mais il ne l'est pas dans les sondages, où on voit que la population américaine reste très fortement en soutien à Israël, même lorsqu'on lui dit qu'il y a des populations civiles qui meurent. Le soutien ne faillit pas. Et c'est important de rappeler qu'il y a cette dichotomie quand même, mais le peu de gens qu'il y a dans ces manifestations, et j'insiste bien, il n'y a pas énormément de monde, même si ce sont des gens très organisés et très déterminés, suffisent à renverser Joe Biden. C'est ça en réalité qui fait le problème dans cette affaire-là. Et de l'autre côté, il y a le Congrès, qui est exactement à l'opposé, puisque en réalité, lorsqu'il convoque Anthony Blinken, c'est pour lui dire de continuer à soutenir Israël et les conservateurs, le Parti républicain dans son ensemble, hein. Puisque là, après la demande du procureur à la CPI, il y a une unité chez les républicains qui est extrêmement forte, puisqu'ils font même passer un texte de loi dans lequel ils veulent condamner la CPI et tous ceux qui aideront à l'émission de mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens si jamais ça devait arriver. Et donc, le but là du Congrès, c'est de faire de la politique et plutôt de la politique politicienne, hein, je veux dire de bas étage, puisque c'est bien sûr une opération électorale. Où chacun essaie de montrer qu'il est plus blanc que l'autre et qu'il a plus blanc et que il est plus fort dans son soutien que le premier. Bon, ça va aller nulle part. C'est une audition normale dans le cadre du contrôle des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et législatif. Eh bien, écoutez, ils font leur travail. Blinken fait le sien en leur répondant. Tout ça est très normal dans un régime démocratique.
Alors, le cœur, enfin la manière dont le gouvernement américain explique au gouvernement israélien son, disons, sa méfiance par rapport à une opération à Rafah, c'est l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et ce matin, l'armée américaine a fait état de 569 tonnes d'aide humanitaire encore en attente et elle communique régulièrement sur les efforts qu'elle fait pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Est-ce que ces efforts-là expliquent l'assouplissement de la position américaine sur cette opération ou il faut prendre en compte d'autres enjeux?
Alors, je crois que vous avez raison, en partie, c'est cette question-là. Alors, l'aide humanitaire est très critiquée actuellement, la manière dont elle est faite, et même les Américains, avec leur jetée, sont très critiqués parce qu'on explique que c'est plutôt les camions qui doivent entrer directement et qu'ils n'arriveront jamais à un seuil d'aide tel qu'on pourrait l'avoir par la route. Donc on jette à la fois l'opprobre sur le gouvernement israélien et sur le gouvernement américain. Maintenant, je crois qu'il y a des enjeux de géopolitique plus larges, hein, dans la prise de position de Joe Biden. On en parlait dans une précédente question, mais Il se trouve que Joe Biden ne veut pas oblitérer les chances de Netanyahou sur son opération. Il faut à la fois, et c'est là aussi, hein, avoir une main dure en lui disant attention aux populations, mais une main de velours en lui disant bon, bah, il y a quand même des choses à faire parce que il y a une réalité sur le terrain qui est évidente à tout le monde, en fait, hein, et qu'il faut arriver à amener les acteurs à se parler, si possible même à faire un cessez-le-feu, et donc en tapant pas trop fort sur Netanyahou, l'idée c'est aussi d'amener le gouvernement israélien à plus de compromis, à essayer de s'assouplir de lui-même sur ses positions, en rejoignant la position américaine, en se disant après tout, j'ai un allié qui est fort, donc j'ai pas besoin de me radicaliser pour autant, et donnons du temps au temps, avec pour Biden, bien sûr, l'objectif ultime qui est d'arriver à une solution à deux États. Ça semble un petit peu difficile d'ici le 5 novembre quand même.
Alors, c'était ma prochaine question, justement, vous me devancez. En filigrane, on a l'impression que l'objectif pour les Américains, c'est de parvenir à sortir les négociations pour l'accord sur la libération des otages de l'impasse. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi cet assouplissement de la position américaine, ou il y a également
Oui.
d'autres éléments en jeu?
Non, non, ça très très clairement. De toute façon, on entend les bruits qui arrivent de Washington, hein. Les rumeurs sont très très fortes. L'objectif désormais, c'est d'arriver à faire taire les armes. Ce serait là la victoire de Biden, effectivement. Comment rassurer sa population contestataire autrement que en arrivant à cela? Pour le reste, les élections, il peut les gagner en leur parlant d'autres sujets qui les intéressent, qui lui permettent de renouer des liens avec ces jeunes, à condition d'avoir résolu en grande partie le problème à Gaza. Alors il y a cette voix qu'on entend monter, très optimiste, de Washington, qui aurait déjà travaillé là-dessus pour pouvoir avancer assez fortement. J'ai bien peur que l'optimisme soit un peu trop fort par rapport à une réalité de terrain qui peut déraper à n'importe quel moment. On voit en Israël un ultimatum donné par Gantz qui peut faire que le gouvernement pourrait en pâtir.
Eh bien, Jean-Éric Brana, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférence à Assas. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci.